Vous écoutez Vie d'aventure par Denis Brognard.
Frankie Zapata, c'est l'homme volant. Mais c'est surtout un inventeur de génie, un pionnier qui a créé un appareil propulsé par 5 mini-turboréacteurs capable de faire voler son pilote. Frankie Zapata, ex-champion du monde de jet ski, n'a pas fait de hautes études. Pourtant, il est aujourd'hui un ingénieur au sens noble du terme qui rêve d'aller encore plus loin. Son imagination est sans limite. Son destin, sa vie, son exploit d'avoir traversé la Manche en volant par lui-même, mais aussi ses futures inventions, on va parler de tout. Frankie Zapata est mon invité aujourd'hui dans Vie d'aventure. Bonjour Frankie Zapata.
Bonjour Denis, ça fait plaisir d'être avec toi.
Eh bien moi aussi ça me fait plaisir, vraiment. Et on va revenir sur ton histoire qui est absolument incroyable, unique pour Vie d'aventure. À quand remonte pour toi ce rêve de voler seul, sans aéronef, uniquement propulsé par ces fameux micro-turboréacteurs?
En fait, l'idée du flyboarder, c'est assez récent, c'est on va dire 5-6 ans, mais j'ai toujours rêvé de voler depuis tout petit. Je pense que la première fois que j'ai eu ce rêve, je devais avoir à peu près 5-6 ans, 7 ans. J'ai toujours eu ça dans ma tête. Dès l'âge de 16 ans, j'ai quitté l'école, ça ne me pesait pas trop, puis je pensais pouvoir devenir pilote d'hélicoptère. Puis en fait, je me suis aperçu que j'étais daltonien, donc du coup, c'est un rêve qui est tombé à l'eau, mais oui, ça remonte vraiment à ma toute petite enfance.
Est-ce que cette âme d'inventeur, elle remonte aussi à ta plus petite enfance?
J'ai exactement la même vie depuis que j'ai 6 ans, en fait. J'ai jamais changé de vie, c'est-à-dire que j'ai passé ma vie entre l'atelier, tout en désordre le garage de mon père, et le sport, quoi. C'est finalement, ça m'a jamais lâché, et ça m'a pris, vraiment, c'est un virus qui m'a pris depuis que j'ai l'âge de raison.
Alors justement, qu'est-ce que tu as créé à ce moment-là? Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais dans l'atelier de ton papa, à part le mettre en bordel?
Ah ben, rien qui marchait, je t'avoue. Pas grand-chose qui marchait, mais comme tous les petits, quoi. Alors au début, je faisais des fusées, après je faisais des épées, quoi, tu vois. Tous les trucs des gamins, ça m'obsédait, quoi. C'était, on va dire que la vie d'inventeur, c'est une vie un petit peu à part. Alors, ça devient une obsession, tu vois, en fait. C'est plutôt une malédiction qu'une bénédiction, tu vois. T'as une idée dans la tête et ça peut pas sortir tant que ça marche pas, quoi. Et du coup, en fait, c'est cette idée qui t'arrache du lit ou qui t'arrache de ce que tu es en train de faire parce que ça devient une obsession. Et je pense que c'est en grande partie pour ça que j'étais un cancre à l'école, quoi, tu vois.
Francky, quand on est un inventeur né, pourquoi on poursuit pas ses études? Pourquoi on ne devient pas ingénieur?
Ben, disons que moi, c'est l'école qui m'a mis dehors, en fait. J'avais, comme ils ont dit, un profil trop atypique et j'avais pas le profil pour poursuivre les études selon eux. J'ai toujours adoré les relations avec les gens, donc j'étais toujours, tu vois, pote un peu avec tout le monde à l'école. J'étais délégué de classe, je crois que depuis ma sixième, j'ai toujours été délégué de classe. J'étais un peu, tu vois, le gars que tout le monde aimait bien et donc forcément, ben, les profs, ils m'aimaient pas trop. Et puis, moi, honnêtement, je me voyais continuer parce que d'une part, je savais pas trop ce que je voulais faire. Dans la vie, je ne pensais pas que ce qui me passionnait était un métier. Pour moi, ça n'a jamais vraiment été un métier. C'est plutôt une passion. Quand ils m'ont posé la question qu'est-ce que je voulais faire, moi, j'ai dû vouloir aller en seconde, comme tout le monde, et les copines, les copains, quoi, tu vois. Et ils m'ont dit non, mais pas du tout. Tu n'as pas le profil pour ça. Il faut que tu choisisses un BEP. Et en fait, j'avais la moyenne pour passer, mais ils m'ont refusé et le redoublement et le passage en seconde. C'était un peu une époque où les gens décidaient pour toi, quoi. Et moi, je me suis retrouvé en BEP. Donc, comme mon père était maçon, au dernier moment, quand tu as une semaine pour choisir quel BEP tu vas faire, qu'est-ce que tu veux choisir? Moi, j'ai rien vu d'autre. J'ai dit, bon, ben, maçon. Puis là, je me suis retrouvé, tu vois, dans une classe avec des jeunes qui avaient arrêté l'école à 10 ans, quoi, qui étaient quasiment déscolarisés. C'est vraiment la voie de garage, quoi, les BEP maçonnerie, quoi. Et là, je me suis dit, mais je peux pas faire ça, quoi. Et c'est là où je me suis commencé un petit peu à me révolter, tu vois, l'adolescence en même temps qui est arrivée. J'ai dit à mes parents, ben, écoute, moi, si je dois aller là-bas, ben, j'irai pas, quoi. J'irai pas à l'école, quoi. Vous pourrez me mettre tous les matins à 8h, je partirai de là-bas tous les matins à 9h. Et j'ai toujours été comme ça, quand j'ai eu une idée, après, une fois que je mets du temps à me décider, les gens pensent, tu vois, que je prends un peu des décisions à la légère et que je suis assez impulsif, mais en fait, non, tu vois, je prends des décisions assez radicales, mais je les réfléchis pendant longtemps, et du coup, j'ai arrêté l'école.
Et là, tu façonnes ta vie, hein, comme le maçon en devenir que tu es, et tu te lances à corps perdu aussi dans le sport et dans le sport de haut niveau. Tu aimes les sensations fortes. Et ta voix, au départ, c'est le jet ski.
Le sport a beaucoup contribué à faire qui je suis aujourd'hui. Au début, quand j'ai quitté l'école, je faisais encore du sport de combat, je faisais des compètes, je faisais championnat de Provence, championnat de France de karaté. Et finalement, en même temps, j'étais passionné de glisse, donc je fais du ski et du snow. Et dès l'âge de 15 ans, j'avais vraiment envie de faire du sport de haut niveau et j'avais commencé un peu les compètes de snowboard. Et puis quand la neige a fondu, tu vois, au printemps, je me suis retrouvé un petit peu voilà, sans rien à faire, sans passion. J'avais arrêté le karaté parce que ça ne me correspondait plus. Et puis je suis monté sur un jet. Dans la vie, des fois, ce que je dis à tout le monde, il y a des trucs pour lesquels t'es fait, quoi. Tu vois, moi, j'ai deux pieds gauche. Tu me vois jouer au foot, c'est une catastrophe. Je suis vraiment pas bon avec une raquette de tennis à la main non plus. Je suis catastrophique, tu vois, en endurance. Mais il y a des trucs dans la vie pour lesquels t'es fait. Je suis monté sur un jet ski et j'ai senti direct que c'était pour moi, quoi. J'étais assez doué pour ça et ça m'a passionné pendant 15 ans, 17 ans de ma vie.
Tu deviens champion de France, puis champion d'Europe, puis champion du monde. Et là, eh bien, tu commences à imaginer ce que pourrait être ton futur et tu orientes ta vie vers ta première invention, le flyboard. Raconte-nous.
En fait, je dirais que mon vrai métier, c'est survivre. Survivre à toutes les situations, en fait. J'ai un bon instinct de survie et je m'adapte. J'ai appris la mécanique par hasard, j'ai appris le développement par hasard et puis j'ai créé ma boîte par hasard parce qu'il n'y avait plus de grosses boîtes comme tu sais, Kawasaki, Yamaha ou BRP qui voulaient me sponsoriser. Ouais. C'était un peu la période difficile, tu vois, la crise de 2008. Et je me suis dit, bah ouais, bah ok, plus personne ne veut me donner de l'argent, bah, pas de problème, je vais créer ma marque de jet ski. Quoi. Ça m'est sorti de la tête comme un matin, on était les seuls, quoi, la seule mini société face aux géants. Et du coup, on a construit en tout, pendant 3 ans, entre 50 et 70 jet skis par an. On les a vendus un peu au travers du monde et on a gagné 18 titres de champion du monde. Donc, c'est comme ça que j'ai créé ça.
Et là, justement, tu as envie d'aller au-delà, que les sensations soient encore plus fortes. Et tu te dis, je vais me servir de la turbine d'un jet ski pour m'envoler jusqu'à 15 mètres de hauteur. Mais comment ça t'est passé par la tête ?
Eh ben en fait, c'est pareil, quoi. C'est toujours pareil, c'est du hasard, tu vois. Je bossais sur les jets, on préparait la finale du championnat du monde en Chine, avec un jet qu'on avait entièrement construit, quoi, un jet à selle. Et en fait, on avait des problèmes de mise au point, tu vois, pour les moteurs. Une heure de banc d'essai moteur, ça coûte une fortune, on n'avait pas les moyens. Et du coup, ben, j'ai inventé un système pour pouvoir laisser le jet ski sur la remorque et accélérer le moteur à fond. Et le faire forcer, quoi. Et en fait, pour pas qu'il... Parce qu'un jet ski, ça a une tonne de poussée, quoi, un jet de course. Et pour pas qu'il emmène la remorque et le camion en haut de la mise à l'eau, ben en fait, je dissipais l'énergie avec ce qu'on appelle la perte de charge. Quand tu souffles dans un tuyau, tu t'en rends bien compte que c'est plus dur que de recracher de l'eau par ta bouche. J'ai utilisé, en fait, la perte de charge avec un tuyau pompier pour dissiper l'énergie. Et quand j'ai vu l'énergie qui restait au bout du tuyau, je me suis dit, mais attends, tu te mets ça dans le dos là ou sous les pieds et tu voles. Et j'ai commencé à dire ça à mes potes. Bon, évidemment, tout le monde s'est foutu de moi, tu vois. Il m'a dit, c'est quoi, fini ton jet déjà. Bon, championnat du monde, arrête tes conneries. Tout le monde se foutait un peu de moi. Puis donc, j'ai fini mon jet. Je l'ai mis dans la caisse parce qu'il part en Chine, ça prend des semaines, bon, quasiment un mois et demi, ça prend la mer. Et du coup, je l'ai envoyé en Chine. Et dès que le jet est parti pour la Chine, ben, j'avais pas trop grand chose à faire. Et je me suis dit, bah, allez, c'est parti, j'ai acheté une planche de wakeboard à Decathlon. Et j'ai commencé à souder des buses en alu dessous. Et là, j'ai appelé tous mes potes, on est allé à la mise à l'eau à côté de chez moi. Et ça commençait à être l'époque un peu des téléphones portables avec l'appareil photo, etc. Et du coup, il y avait des jeunes, quand ils nous ont vu déballer le tuyau du camion, ils ont commencé à filmer. Et les potes disaient, non, filme pas, c'est top secret. Et là, en fait, je me suis mis sur les pieds, j'ai même pas décollé d'un centimètre. Et donc là, j'étais la risée de toute la plage, mes potes, ils m'ont traqué pendant 2 mois. Et je me suis dit, bon, ok, l'idée, elle marche pas, mais pourquoi? Et donc là, j'ai commencé à prendre un logiciel que j'avais là de mécanique des fluides, et j'ai commencé à calculer, et je me suis aperçu, en fait, voilà, qu'on avait trop dissipé d'énergie dans le tuyau, etc. Et je me suis dit, bon, ben, j'ai appelé mes potes, j'ai dit, bon, là, je pense que j'ai assez de puissance. Et puis là, c'est comme dans les films, quoi. Tu vois, je me suis dit, je vais pas créer une machine encore qui va pas marcher. Donc, je me suis juste déjà essayé de voir si j'ai assez de force au bout du tuyau. Puis là, j'ai demandé à ma femme d'appuyer sur le démarreur et d'accélérer, quoi. Mais un mois avant, j'avais même pas décollé 10 cm. Et là, j'avais le tuyau à la main. Et rien qu'avec la force de l'eau au démarreur, ben, je me suis envolé avec le tuyau à la main, quoi. Et donc, un peu comme dans les films, quand tu vois, quand tu vois la mer en train de taper dans tous les sens.
C'est-à-dire que c'est ce jour-là que tu as compris que le flyboard était né et que tu allais pouvoir décoller au-dessus de l'eau en te servant de l'énergie de la turbine.
Ben, c'est ce jour-là que j'ai compris, du moins, que j'avais assez d'énergie pour voler. Après, comment tu allais voler, faire un vol stable, tu vois, avec un humain et un jet d'eau? Là, ça m'a pris encore un bon mois et demi, quoi, tu vois. Donc, j'ai fait plein de prototypes dans mon garage. Dans le premier qui a marché, il était en fait de bois, tu vois, et de carbone, et il pouvait aller qu'en marche arrière. Parce que, tu vois, qu'en marche arrière, parce qu'au début, on avait accroché le jet à la remorque, et le système, il était même pas fait pour se déplacer, tu vois. Je comptais même pas les vendre, c'était pour m'amuser, quoi, tu vois. Et du coup, le jet était sur la remorque, et moi, je m'élevais derrière, quoi, tu vois. Et au moment où ça a marché, ouais, j'ai dit à un pote à moi, mais détache le jet de la remorque. Mais finalement, du coup, j'allais qu'en marche arrière, quoi, tu vois. Donc du coup, je me suis baladé comme ça sur le lac en marche arrière. Et là, oui, il y avait un petit bateau qui traînait. Le bateau a appelé un pote qui était en bateau, qui a appelé sa tante, la grand-mère, le grand-père. Et en, allez, 2 heures, il y avait 100 personnes autour. Du coup, il a fallu après faire des dizaines de prototypes pour arriver à s'élever en fait vraiment au-dessus de l'eau et avoir un vol stable. Et à partir de là, j'ai compris qu'il y avait vraiment du potentiel. Ça a attiré en quelques heures des centaines de personnes sur la plage. Et donc voilà, je me suis posé, je suis allé déposer le brevet et j'ai en même temps construit la vraie machine, enfin pas la version finale qu'on a vendue, mais le prototype qu'on peut voir dans la première vidéo de Flyboard. Et je suis allé la présenter, donc je présentais le Flyboard qui n'avait même pas encore de nom à la finale du championnat du monde de jet ski en Chine. Et donc là, bah, tu vois, le premier vol, la première fois qu'on a décollé, ben, il y avait des milliers de Chinois tout autour, parce que c'était une espèce de foire. Le lendemain, ben, on avait fait la une de tous les journaux. À l'époque, ils m'appelaient Aquaman au-dessus du plan d'eau de Liuzhou. Et j'ai compris vraiment qu'il y avait du potentiel, quoi, tu vois. Et je me suis dit, bon, ben, peut-être que ma vie, elle va changer, quoi, tu vois. Et
est-ce qu'elle change à ce moment-là, ta vie ?
Radicalement. En fait, j'ai compris que tout ce que j'avais appris et ce que je savais faire, ben, je pouvais l'exploiter pour autre chose que pour faire du jet ski, parce que j'ai passé vraiment des années extraordinaires, mais voilà, j'étais un peu sur la fin de ça. Quand j'avais la trentaine, une femme, un enfant, pas d'avenir financier, c'était un peu difficile, et j'ai compris que c'était l'opportunité de ma vie, quoi, l'opportunité que ma boîte, qui était une toute petite société, devienne peut-être une boîte un peu plus internationale, et voir l'avenir un peu plus loin qu'à une semaine, quoi. Et c'était un peu ce qui me donnait envie, utiliser ce que j'avais appris. Et là, j'ai compris que ma vie pouvait changer, mais c'était pas encore là, c'était pas encore fait, quoi. Tu vois, le chemin était long, quoi. Le chemin était long.
Tu crées ce flyboard air qui est en fait une espèce de planche de surf sous laquelle tu places 4 micro-turboréacteurs qui te permettent d'être autonome et de voler, de devenir l'homme volant. Encore une fois, comment ça se passe dans ta tête pour en arriver à ce projet et à cette technologie que beaucoup t'envient aujourd'hui?
Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça et très simple en même temps. Le flyboarder, l'idée, pour être honnête, je l'ai eu la seconde après que j'ai décollé avec le flyboard à eau. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant ce mois et demi, comme je dis, pour développer le prototype. Et au moment où je suis arrivé à m'envoler, je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Tu voles, quoi. Tu voles vraiment. Et là, j'ai dit, mais il faut faire un truc autonome, quoi. Il faut enlever le tuyau. Je sentais que tout le monde voulait un peu aller là-dedans. Et je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et j'ai passé 4 mois, j'ai tout essayé, des moteurs de temps, des moteurs électriques. Et à un moment donné, je me suis dit, mais les micro-turbines, c'est la clé. Et là, j'ai créé un prototype. Très rapidement, quoi, en 3-4 mois, ça a commencé à marcher. Mais on n'avait aucune stabilité, on tournait dans tous les sens. Et là, il a fallu se plonger dans tous les systèmes de stabilisation, un peu les systèmes qu'il y a sur les drones. Et encore une fois, ben, j'ai été obligé d'apprendre un métier qui n'est pas le mien, quoi. Tu ne comprenais rien, je n'avais jamais acheté un drone de ma vie. Et il a fallu acheter des cartes de stabilisation et créer des programmes de stabilisation en partant de zéro. J'y comprenais rien, quoi. Et puis, écoute, miracle, je suis arrivé à me reposer. Puis là, j'ai pris confiance et au début, on y a cru un peu trop, quoi. Tu vois, on pensait vraiment qu'on avait un produit à vendre et ce n'était pas vraiment le cas. On n'était pas du tout prêt, quoi. C'était, c'était un jouet, quoi. Et c'est ce que je leur ai dit. Le flyboarder, c'est un jouet, quoi. Ça marche avec deux piles AA dans la télécommande. La pile AA, elle tombe en panne, ben, je tombe dans l'eau. Donc, c'est ça, la réalité. Donc, tout le monde s'était un peu emballé pour rien, quoi. Et après, on a passé des années à transformer un jouet en engin volant, quoi. On a eu des épisodes un peu plus compliqués que les autorités, la DGAC, etc. Et il a fallu que nous, on se plie aux lois aéronautiques. Et donc, on a commencé à imaginer des plans A, des plans B, des plans C. Qu'est-ce qui se passe quand tu perds un moteur? Et on a commencé à se dire, il faut aller au bout de ça. Jusqu'au jour où on avait tout mis dans la boîte et on s'est dit, OK, c'est redondant. On n'a plus qu'une chance sur 10 000 de s'écraser. Ben voilà, donc c'est peut-être le jour de voler au-dessus du sol. Et puis là, j'ai commencé à voler au-dessus du sol et on n'a jamais cessé de travailler. Aujourd'hui, je pense que la nouvelle version du Flyboarder, on est à un peu plus d'une chance sur 1 million d'avoir une défaillance qui pourrait créer une chute. Donc voilà, on n'a jamais cessé de bosser et c'est un projet sur lequel on travaille toujours, quoi.
Ce qui est dingue, Francky, c'est que j'ai l'impression que tu travailles de manière empirique. C'est-à-dire que tu pars de tout en bas et tu progresses, tu apprends de tes erreurs. Mais est-ce qu'à un moment, tu as été aidé par des ingénieurs à l'extérieur, par un bureau d'études, ou est-ce que tu es finalement le self-made man total?
Je suis bon, tu vois, à survivre et à trouver des solutions pour réaliser mes rêves. Et du coup, de manière empirique, je solutionne un problème par un, jusqu'à ce que le système se mette à fonctionner. J'avais pas de bureau d'études à l'époque, mais je l'ai créé, quoi. J'ai créé un bureau d'études. Et là, depuis quelque temps, j'ai recruté pas mal d'ingénieurs. Quand tu arrêtes l'école à 16 ans et que tu fais ton bout de chemin tout seul, tu as une partie, des normes sociales et des normes bureaucratiques que tu oublies, quoi, et que tu n'as pas. Moi, j'ai pas les codes, quoi, tu vois, et je compte pas les avoir. Hein. Ma vie, elle me va très bien et j'ai rencontré dans ma vie, plusieurs personnes qui ont eu plus ou moins du succès et qui ont été plus ou moins complexées de leur niveau scolaire ou de... Moi, je m'en fous, honnêtement. Tu sais quoi, j'ai d'énormes lacunes dans la vie, j'ai d'énormes défauts et j'ai quelques qualités et j'ai fait avec ce que j'ai. Je suis petit, tu vois, je suis daltonien, je suis dyslexique, mais voilà, j'ai des bonnes idées et je m'en sors avec ça. Et c'est voilà, une bande de gars avec qui on doit atteindre nos objectifs. C'est comme ça que je vois ma société. J'ai structuré, en fait, ma boîte comme un team de course. J'ai gardé la même philosophie qu'à l'époque où je courais, quoi. C'est un objectif, tout le monde pour l'objectif, quoi.
Francky, il y a les essais, il y a le travail, il y a le développement. Puis un jour, en 2016, il y a ce premier vol, entre guillemets, officiel à Saucé-les-Pins, près de chez toi, dans le sud. Et ça n'a pas été évident parce que beaucoup de gens pensaient que tout ce que tu développais, c'était bidon.
Ah ben oui, ils pensaient que c'était du fake, c'était bidon. En fait, tu voyais plein de vidéos après la première vidéo, ils disaient, mais regarde, je vois le câble, ils ont effacé le câble. Puis t'as peut-être des fous hein, sur les réseaux sociaux. Hein. Ah ben moi, j'ai vu, j'étais là le jour où ils l'ont fait, il y avait un hélicoptère qui le tenait, enfin n'importe quoi. Et t'avais 99% des gens qui croyaient que c'était faux. Et on s'est dit, mais il faut faire un truc officiel. Et du coup, on est parti tête baissée. Et en 15 jours, on a monté un record du monde de distance en planche volante. Donc c'était un truc qui sortait de... Chapeau, quoi. Et là, en fait, on n'avait même pas réalisé l'ampleur de ce qu'on était en train de faire. C'est-à-dire qu'en gros, on avait dit, tel jour à telle heure, on va voler. Mais tel jour à telle heure, il y a peut-être du vent, il y a peut-être de la pluie. On s'est dit, mais comment on va faire? Tu vois, comment on va faire pour voler? Mais s'il pleut, je pars quand même. Enfin, la machine, on ne la connaissait même pas. Ça faisait 15 jours qu'elle était vivante. Et là, ben, finalement, j'ai décollé. Il y avait pas mal de médias. Et je suis arrivé à me poser au bon endroit, quoi. Donc voilà, toujours des défis un peu fous. Mais finalement, c'est là que tu te sens vivant. C'est quand tu réalises des choses comme ça. C'était vraiment top, quoi. C'était vraiment un bon moment. Maintenant que tu me le rappelles, ça fait plaisir.
Nous sommes le 14 juillet 2019, un peu avant 11h du matin, place de la Concorde. Dans la tribune officielle, il y a tout le monde. Le président de la République, le premier ministre, tous les ministres du gouvernement, des invités en veux-tu, en voilà. Et là, tu vas faire une démonstration devant le monde entier de ton fameux Flyboard Air.
Ça a tellement été de stress au moment où j'ai décollé que c'est quasiment pour moi une partie de ma vie qui a été comme une espèce de rêve, quoi. En fait, c'est un souvenir aujourd'hui qui est presque loin, tellement ça s'est passé vite, tellement incroyable, tu vois, voler devant le président, un jour aussi important que ça. Honnêtement, le jour où j'ai créé le Flyboarder, tu vois, je me suis dit, un jour, je volerai aux Champs-Élysées, sur la place de la Concorde, je le ferai un jour, mais honnêtement, je pensais qu'en me posant, j'allais finir en garde à vue. Je pensais pas que ça serait un jour officiel et qu'on m'applaudirait quand j'allais me poser.
Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu t'es vu comme ça, dans le ciel, au-dessus des Champs-Élysées, au-dessus de la place de la Concorde?
Le moment était fou, quoi. Tu te sens, en fait, vraiment français et tu sens que finalement, tu fais partie de ça. Et c'est ce qui m'a vraiment fait plaisir. C'est ce qui m'a... Voilà, ça nous a vraiment touchés parce que nous, on a choisi vraiment la carte de la France. On est resté en France quand on produisait Made in France à 100%. Et te retrouver là, et montrer la technologie, montrer ce que la France est capable de faire au monde entier. Voilà, c'était le tout fait que c'était un moment incroyable et inoubliable, quoi. Ça sera inoubliable pour nous.
Francky, quel joli pied de nez aussi au gamin que tu étais, qui n'a pas fait d'études et qui était rejeté du milieu scolaire classique, que de te retrouver comme ça devant les plus grands de l'État avec ton invention.
Honnêtement, c'est vraiment pas à ça que j'ai pensé. Moi, ma vie, je l'ai toujours menée. Je sais à peu près ce que je voulais faire dans la vie. Je voulais faire quelque chose de différent. Donc, quand tu veux t'en sortir dans la vie, il faut de la créativité. Il faut arriver à trouver un truc ou avoir une créativité en plus des autres. Ça, on te l'apprend pas. Il faut du courage. C'est le courage et le travail qui. Alors, le travail, on te l'apprend parce qu'effectivement, quand tu fais de longues études, etc., il faut étudier. Mais le courage et la créativité, c'est quand même les deux facteurs qui m'ont fait arriver où je suis dans la vie. Et ça, c'est pas forcément ce qu'on t'apprend. Et aussi, tu vois, l'intelligence sociale, les relations que tu crées avec les gens, comment. Et ça, c'est pareil, c'est pas forcément quelque chose qui est mis en avant. Moi, sincèrement, vu que j'ai choisi une voie où personne n'y comprenait rien, ben finalement, ça m'a permis d'être dans le business depuis l'âge de 16 ans. Et c'est ce que je dis quand je rencontre des gens, quand je fais des deals avec des sociétés ou des partenariats. Aujourd'hui, je suis jeune encore aujourd'hui, j'ai la quarantaine, mais je fais du business depuis 25 ans. J'ai 25 ans d'expérience avec tous les gens qui essayent un petit peu de t'arnaquer ou de te voir venir. C'est vraiment une vie différente. Mais j'ai pas, en gros, je le vois pas comme un pied de nez. Moi, je me dis juste que ça serait bien que le système scolaire évolue, qu'il arrive à détecter des gens qui ont envie de faire des choses différentes. Mais pour moi, je t'ai vraiment incompatible et c'est pas eux les responsables, c'est moi quoi. Je suis à part quoi. Voilà, je suis différent et incompatible.
Alors le Flyboarder, on a bien compris, Francky, c'est quelque chose de compliqué à utiliser que tu as inventé, mais tu as développé une version beaucoup plus facile à manier et qui a tapé dans l'œil de l'armée américaine notamment.
Bah, en fait, on l'a construit pour l'armée américaine. C'est-à-dire qu'à la base, en fait, ils imaginaient un flyboard air et poser des soldats dessus. Mais ils m'ont dit, il faudrait que ça vole deux fois plus longtemps. Il faudrait que le gars, il le prenne en main en 2-3 heures. Il faudrait que si et que ça. Et en fait, c'était une autre machine de laquelle ils parlaient. J'aurais dit, mais ça, on ne l'atteindra jamais. Ce n'est même pas la peine d'y penser. Un flyboard air, il faut 200 heures pour voler avec. Et du coup, au début, on a décliné la proposition. Et puis, petit à petit, en bossant, on a eu l'idée de créer, en fait, d'utiliser, en fait, le principe du Flyboarder, donc les 5 micro-turboréacteurs qui poussent dans le milieu de la planche, dans le centre de gravité, de rajouter, en fait, deux grands tubes en carbone, et vous avez le haut du corps qui est solidaire de la machine. Ce qui fait qu'il n'y a plus besoin de ces fameuses boots type snowboard, vous voyez. Vous êtes solidaire de la machine, et quand vous vous penchez, ben, si vous vous penchez trop en avant, l'algorithme vous relève. Donc en fait, c'est quasiment impossible de tomber avec. Vous n'avez pas la capacité de faire des erreurs. Et du coup, ben, on a rappelé l'armée américaine à cette époque-là. On leur a dit, ben, on est prêt à faire des essais. Et le cahier des charges, c'était de faire voler un soldat lambda, pas un pilote, faire voler un soldat lambda en moins de 10 heures. Et en fait, on avait deux soldats et les deux ont volé en une demi-heure. Le EasyFly, lui, il vole vraiment par la gravité. Donc c'est un peu moins rapide, quoi. Ça vole maximum à 100-110 km/h. Mais c'est extrêmement facile. Et du coup, en une demi-heure, tu le prends en main. Donc ça, c'est plus un produit qui est destiné vraiment aux forces spéciales, aux armées, puisque tu peux te poser au sol, et là, tu sautes de la machine et tu gardes tes chaussures au pied. Tu n'es pas lié à la planche avec des boots, quoi. La question, c'est, est-ce qu'un jour, il y aura des militaires sur EasyFly ? La réponse, c'est oui à 95%. Aujourd'hui, nous, on est prêts. Dans quelques mois, je dirais, nos moteurs seront parfaitement abouti. Je vole déjà avec, je vole déjà avec mes moteurs, mais ils seront aboutis, prêts à finir un produit et à le livrer. Maintenant, on va dire que la carte est dans leurs mains. Ce qu'on a compris très rapidement, c'est que les gens, ils veulent voler. On n'aurait pas, je veux dire, ce succès au niveau des médias et des gens en général si des gens n'étaient pas passionnés de voler. L'homme est passionné de voler. Et ce qu'on a compris, c'est que les gens, ils veulent voler. Et du coup, tu vois, quand on a fait cet essai justement du Easy Fly, ça a changé beaucoup de choses pour nous. Quand on a fait l'Easy Fly pour l'armée américaine, honnêtement, hein, on est allé en reculant. Hein. Moi, j'étais persuadé que j'allais massacrer quelqu'un ce jour-là. Quoi. Tu vois que la technologie était tellement compliquée à maîtriser qu'elle allait avoir un accident. Et finalement, aussi fou que ça puisse paraître, la machine est simple. Un turboréacteur, c'est pas dangereux. Il n'y a pas d'hélice, il n'y a rien qui tourne. On avait la proximité avec les gens qu'on formait. Les gaz, ils sont chauds, mais c'est 600 degrés. 600 degrés, c'est un peu la même température qui sort d'un décapeur de peinture que tu achètes à Castorama. Finalement, à 1 mètre de hauteur, la température, elle est diluée. Le gars, il pouvait passer sur nous que ça nous brûlait même pas. Et on s'est dit, mais c'est une techno mais qui est destinée au grand public.
Ensuite, tu décides de traverser la Manche avec ton Flyboard Air. J'ai envie de dire, tu le fais en deux fois parce que la première fois, c'était un échec. Mais la première fois, c'est le 25 juillet 2019, une date symbolique. 110 ans après la première traversée de la Manche par Louis Blériot, qui allait Douvres à l'époque en 27 minutes. Enfin, tu as de la marge par rapport à Louis Blériot parce que lui, il a échoué 32 fois avant de réussir. Toi, tu n'as échoué qu'une seule fois et pas parce que ton matériel ne marchait pas, parce que tu n'as pas été capable de t'arrêter au milieu, parce que tu es obligé de ravitailler en kérosène au milieu du parcours.
C'est un des plus beaux souvenirs de ma vie, traverser de la Manche. Et ça, avant tout, ça a été une aventure humaine extraordinaire. On cherchait un défi à faire, un truc, on va dire, un peu fou pour 2019. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On s'est dit, si on traversait la Manche comme les pionniers de l'aviation. Moi, j'ai passé ma vie à lire leurs exploits. Pour moi, c'était des héros. Et du coup, on n'avait même pas capté que c'était 110 ans après. On s'est gardé ça dans la tête. On s'est dit, écoute, on va traverser la Manche. Et on n'avait même pas réalisé quoi, que finalement, il y avait 40 kilomètres qu'on n'était pas capable de les faire. À l'époque où on a eu l'idée, le maximum de distance qu'on était capable de traverser, c'est 10 kilomètres. Donc, on était parti dans un truc un peu délirant. Et puis finalement, on s'est dit, nous, on comptait la traverser si on y arrivait, tu vois, sans rien dire à personne. Puis finalement, quand on s'est retrouvé engagé, on s'est dit, maintenant, il faut traverser la Manche. Et du coup, j'ai eu la bonne ou la mauvaise idée, pareil, d'en parler à tous les médias pour le 14 juillet. J'ai dit, au fait, je traverse la Manche dans 15 jours. Mais tout le monde dit, mais on vient. Mais en fait, je me suis dit, mais attends, finalement, ils vont venir me voir, mais m'écraser dans l'eau, quoi. Parce que je ne savais pas du tout si j'allais y arriver, quoi, finalement. Et quand je disais ça, tu vois, dans les conférences de presse, que j'avais une chance sur deux d'y arriver, tout le monde pensait qu'on faisait monter la mayonnaise, mais c'était vrai, quoi. J'étais pas du tout sûr d'arriver jusqu'au bout. Et du coup, voilà, on a bossé, on a essayé, puis finalement, en plein milieu, il y en a un peu négligé le côté atterrissage dans les vagues. Et dès que je suis arrivé, que j'ai vu le bateau qui faisait des mouvements de 1,50 m sur la plateforme, j'ai compris que j'allais finir, que j'allais goûter à l'eau de la Manche, quoi.
Tu ne te démotives pas? Puisque quelques jours après, le 4 août, il est 8h16, tu es à Sangatte, pas très loin de Calais, côte française, et tu t'envoles direction l'Angleterre pour une seconde tentative.
Pour nous, c'était même pas imaginable de renoncer. Je me suis mis à la place de mon équipe qui avait travaillé pour ça pendant presque 2 mois, les autorisations, les systèmes de ravitaillement, tout ça. Et je me suis dit, on mettra quelques mois et on va revoler. Et quand, en fait, j'ai été secouru par le bateau des affaires maritimes, et ils m'ont dit, tu comptes retraverser quand? J'ai dit, dans quelques mois. Ils m'ont dit, dans quelques mois, la météo, c'est même pas la peine d'y penser. Ils m'ont dit, moi, je vois plutôt l'année prochaine. Et c'est là que je me suis dit, c'est ou demain, ou l'année prochaine. Et je me suis dit, physiquement, jamais, si je prends un mois de vacances, jamais je serai prêt à traverser la Manche, parce que c'est un défi physique, même si, tu vois, je continue à faire tous les soirs 1 heure de crossfit. Là, demain, je ne suis pas capable de traverser la Manche, quoi. C'est un entraînement vraiment spécifique. Donc, je me suis dit, comment je fais? Je rentre à l'atelier, je répare le plus vite possible et je traverse. Donc, quand j'ai dit ça à mon équipe, il y en a quelques-uns qui ont pris un peu peur. Et j'ai dit, écoutez, c'est comme ça, on ne lâchera pas et on traverse à chaud. Et honnêtement, ça m'a mis encore plus de pression parce que la première fois, tu rates, mais j'avais pas envie que ce soit une habitude que tout le monde me voie faire un plongeon dans l'eau, quoi. Tu vois, j'avais quand même envie de réussir, quoi. C'était...
Alors, le 4 août, tu réussis justement. Francky, j'ai quelques questions très brèves à te poser pour qu'on s'imagine avec toi. À quelle altitude tu voles au-dessus de la Manche?
Honnêtement, je devais être aux alentours entre 50 et 80 mètres parce que je regardais l'hélicoptère devant moi et en fait, il m'attirait. Moi, normalement, j'aime bien voler, tu vois, à 15-20 mètres. Tous les entraînements que je faisais, je les faisais à 15-20 mètres. C'est une hauteur qui est raisonnable, tu vois, c'est pas très haut, tu manques pas d'équilibre, tu as une bonne vision. Et en même temps, si tu as un moteur qui lâche, tu as assez de distance pour te rattraper. Mais là, comme je regardais l'hélico devant moi, mais en fait, je montais à sa hauteur. Donc finalement, j'ai dû traverser dans les 80 mètres de hauteur en moyenne, quoi. C'était, honnêtement, c'était quasiment comme dans un rêve, quoi. Je volais tout seul en plein milieu de la mer. Tu sais, quand à un moment donné, devant toi, tu vois plus rien. Derrière toi, tu vois plus rien. T'as qu'un hélico. Tu croises des bateaux, mais des tout petits bateaux que tu doubles avec 100 km/h ou 110 km/h d'écart. C'est quelque chose qui est hors du temps, quoi. Et ça, par contre, tu t'en rends bien compte. Ce que je dirais, c'est la sensation, c'était hors du temps, quoi. C'était vraiment un moment hors du temps.
À quelle vitesse as-tu traversé la Manche?
Ben, en gros, je sais qu'il fallait que je maintienne au minimum 145-150 de moyenne pour traverser, pour être dans les temps. Parce qu'en fait, plus je vole vite, et moins je consomme de carburant. Alors, ça paraît logique, parce que, dans un sens, parce que plus je vais vite et moins je vole longtemps, mais en même temps, mon corps se met à planer. Mon corps devient une aile. Donc en fait, je consomme moins d'énergie à voler à 200 km/h que ce que je consomme à voler à rester stationnaire. Donc plus j'allais vite et plus je pouvais traverser. Donc du coup, j'ai traversé à 160-170 de moyenne.
Quelle est la vitesse maximale que tu peux atteindre aujourd'hui avec un flyboard air?
Bah, écoute, juste avant la Manche, je me suis amusé à faire un record perso parce que j'étais bien prêt, quoi. J'ai fait 202 ou 203 km/h.
Ce qui est absolument monstrueux quand on sait que tu n'as aucune protection autour de toi. Alors au niveau physique, comment faut-il être préparé pour résister justement à ces charges? Comment faut-il être préparé pour résister à ces vitesses?
La problématique, c'est que c'est la planche qui vole, c'est la planche qui avance. Moi, je m'équilibre dessus. Donc en fait, c'est comme si le corps voulait se plier en arrière, en fait. Donc il faut vraiment avoir des bons quadriceps, tu vois, pour repousser la planche. Des bons abdos.
Les muscles de la partie avant des cuisses.
C'est pas trop cardio. Tu vois, je dois pas dépasser 100-110 en fréquence cardiaque. Mais par contre, c'est vraiment, ça brûle les cuisses, quoi. C'est un peu la même sensation que si tu te mets en chaise et puis contre le mur.
Je vois très bien. Voilà, ça fait mal aux cuisses, voilà. Rien que d'y penser.
Ouais, je serais un bon candidat pour Koh-Lanta sur les poteaux, je pense.
Bon, alors, Francky, est-ce qu'aujourd'hui, avec un exploit comme celui-ci, en un peu plus de 20 minutes, tu te considères dans la lignée des premiers aviateurs, les frères Wright, qui ont fait le premier vol avec un avion équipé de deux hélices et d'un moteur à explosion en 1903, dans la lignée d'un Louis Blériot, d'un Charles Lindbergh, auteur de sa première traversée en solo de l'Atlantique sans escale?
Ben non, pas à ce niveau-là, parce que leur invention aujourd'hui a changé le monde. Donc en fait, il y a une énorme différence entre l'exploit perso que tu fais et ce qui va apporter à la communauté dans le futur. Moi, aujourd'hui, comme je te l'ai dit, c'est un skateboard volant, c'est un jouet. Ça n'a rien apporté encore à l'humanité. Si demain, on arrive à faire en sorte que notre techno apporte quelque chose aux gens, que nos plateformes volantes rapatrient des blessés, sauvent des vies, à ce moment-là, c'est l'exploit de ce jour, de la traversée de la Manche, aura un poids plus important. Et même moi, à ce moment-là, peut-être que je reverrai à la hausse ce que j'ai fait. Pour l'instant, c'est un défi perso, quoi. Il n'y a rien de plus que le gars qui a traversé en nageant. C'est ça aujourd'hui. Et je pense que même les frères Wright ou Louis Blériot, à cette époque-là, je pense que même eux le pensaient comme ça. En Angleterre, tu pouvais y aller en bateau. Il n'y avait rien de fou à y aller en volant. C'était cool d'y aller en volant. Ils ne pensaient pas que demain, ça servirait à faire Paris-New York et que ça changerait le destin du monde. Et aujourd'hui, comme grâce à eux, ça a changé le destin du monde. Ce qu'ils ont fait, c'est incomparable avec ce que moi, j'ai fait pour l'instant.
Francky, tu es modeste. Néanmoins, c'est quand même un formidable exploit que tu as réalisé. Je voudrais qu'on se tourne maintenant vers l'avenir, parce que je suis persuadé que tu as encore des milliers de projets dans tes cartons, et le plus proche, celui qui est le plus près d'aboutir, j'en ai entendu parler et je veux que tu nous en dises plus aujourd'hui, cette fameuse voiture volante. Tu en es où ?
Eh ben écoute, on est vraiment, vraiment, vraiment pas loin. On est vraiment au bout. On est vraiment au bout. C'est une idée en fait folle qu'on a eue justement après ce test avec l'armée américaine et le Easy Fly. On s'est dit, on veut créer une machine pour faire voler tout le monde sur la planète. Et on s'est bien rendu compte que d'ici qu'on ait des taxis volants qui nous emmènent à acheter le pain, ben, il allait se passer encore quelques années, voire des dizaines d'années. Et je me suis dit qu'entre-temps, on pouvait montrer aux gens c'est quoi le goût de voler, comment on peut voler, sentir ce que moi je ressens sur mon flyboarder, mais que tout le monde puisse le faire. Et on s'est dit, en même temps, tu vois, si on donne la possibilité à tout le monde de le faire, il va y avoir des accidents, les gens ne vont pas écouter, il y en a qui vont s'écraser. Et donc du coup, on s'est dit, ça ne peut pas être une machine qui est contrôlée à 100% par le corps, parce qu'on ne pourra pas contrôler ce que les gens vont faire. Donc on va essayer de créer une mini-machine, alors qui est une voiture volante, c'est ce qu'on dit, parce que c'est ce qui parlerait le mieux aux gens, mais ce n'est pas plus une voiture volante que ce que le flyboarder et un skateboard volant. Donc c'est une espèce d'hybride entre un drone et une Formule 1. C'est un vaisseau spatial, quoi, si je préfère. C'est quelque chose qui... On dit voiture parce qu'on est assis dedans, on est dans un siège, on a un casque. Ça ressemble plus à une voiture qu'à un skate, mais...
Mais qui la contrôle, cette voiture ?
Alors voilà, cette voiture, elle est contrôlée à 100% par le pilote. 100%. Mais en fait, le pilote, si tu préfères, il donne pas des indications d'inclinaison ou comme tu tournerais un volant sur une voiture et tu bougerais les roues. Le pilote, il parle à un algorithme, en fait, qui est dans la voiture et qui lui interprète ce que le pilote veut faire. Et en fait, c'est comme si tu prenais ton stylo et que tu déplaçais ton stylo sur la map monde. Et en gros, si tu veux aller à un endroit où la voiture ne veut pas aller, elle n'ira pas. Donc en fait, tu es 100% libre de faire ce que tu veux. À aucun moment, tu sens la restriction de l'ordinateur et de l'algorithme. Mais si par contre, tu fonces dans le mur qui est devant toi, eh ben, en fait, elle n'ira même pas. Elle ne va pas réagir en voyant le mur. Elle sait qu'il y a un mur, elle n'ira pas. C'est vraiment ce qu'on va apporter aux gens. C'est vraiment une expérience, on va dire, folle, où tu ferais 5-6 tours de voiture volante. Et à la fois, tu vois, essayer d'organiser un petit peu les courses automobiles du futur. Essayer, tu vois, de motiver les champions automobiles d'aujourd'hui et organiser finalement les courses du futur.
Cette voiture volante, est-ce qu'elle vole déjà ? Et est-ce qu'elle vole déjà avec quelqu'un à l'intérieur?
Alors voilà, la voiture volante, elle vole déjà, mais sans personne à l'intérieur.
Ça veut dire que vous la pilotez de l'extérieur, d'en bas.
Exactement. Ce que le pilote va demander de faire à la voiture, on le fait aujourd'hui avec une télécommande d'en bas. On la pilote au sol, on la pilote aussi en immersion avec un simulateur qu'on a développé.
Un peu comme un drone.
Un peu comme un drone. Mais c'est un drone, en fait. C'est un drone volant qui est motorisé complètement différent de tout ce qui a été créé. On a des turboréacteurs, ce qui nous permet, en fait, d'avoir un rapport d'énergie qui est x10 par rapport à des batteries. C'est ce qui nous permet de voler à des vitesses folles, d'avoir des accélérations complètement folles et d'avoir une autonomie en dizaines de minutes et pas en dizaines de secondes. Petit à petit, on va repousser les limites.
Bon, Francky, la question qui me brûle les lèvres, tu t'en doutes, quand te mets-tu à l'intérieur ? Quand piloteras-tu en l'air cette voiture volante comme tu le fais avec ton Flyboard Air ?
Moi, je suis prêt. Si on n'a pas trop de problèmes, dans un mois et demi, j'aurai mes fesses posées dans le siège.
Est-ce que tu as pensé un jour qu'avec toutes tes machines plus folles et plus délirantes les unes que les autres, apparaître dans un film d'action ? Pourquoi pas dans un James Bond ?
Ah, ça serait cool, ça. On avait eu...
Tu vois Daniel Craig qui soit posé sur ton Flyboard Air ou qu'il aille d'un point A à un point B en évitant... tout ce qu'il peut éviter au volant de cette voiture volante ?
Ah ouais, ça serait bien ça. On a vu un bref contact avec une équipe de Tom Cruise pour justement, je crois que c'était pour Mission Impossible 2, puis c'est tombé à l'eau. Après, on a été contacté une fois par Jackie Chan, mais du coup, c'est pareil, c'est tombé à l'eau. Ils ont fait des images de synthèse de quelqu'un qui vole en flyboarder. Ça serait sympa, quoi. Moi qui suis passionné de tout ce qui est Hollywood, ouais. Les films, tu vois, et ça, oui, non, ça, c'est James Bond et tout ça. Mais bien sûr, moi aussi, j'ai été bercé entre les Marvel sur les BD, les James Bond et Retour vers le futur. Donc, effectivement, de voir une machine à nous dans un film, ça serait top, quoi. Ça serait vraiment bien, ça. Ça serait vraiment bien.
Francky, quelle réussite, quel parcours à 42 ans. Quand on t'écoute, on a l'impression qu'il faudrait au commun des mortels plusieurs vies pour réaliser ce que tu as déjà réalisé.
Quand je regarde en arrière, j'ai l'impression, c'est vrai, d'avoir vécu 10 vies. Et du coup, ça me donne un peu le moral pour affronter le futur. Mais moi, tu vois, j'ai l'impression d'avoir toujours 20 ans. Et j'ai toujours la même envie, la même passion. J'ai toujours 20 ans pour moi. Et la seule crainte que j'ai, c'est de ne pas avoir assez de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Et j'ai toujours la même envie, j'ai toujours la même passion. Et pour moi, j'ai toujours 20 ans. Bon, le matin, je me lève, j'ai un peu des séquelles des nombreuses chutes, tu vois, un peu mal au dos, un peu mal dans les articulations, mais j'ai toujours 20 ans. Et c'est les projets qui te donnent cette sensation d'avoir 20 ans. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, quoi. Quand t'es passionné, c'est une vie où tu travailles pas, quoi, où tu es vivant 24 heures sur 24. Alors, après, il y a le mauvais côté, tu vois, il y a pas que du bon. C'est pas une vie rêvée, c'est pas ça, mais c'est une vie du moins palpitante que j'ai la chance de partager, tu vois, avec Christelle, et on fait des aventures folles, et voilà, notre vie, c'est notre amusement et notre passion, quoi. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. J'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de chance pour ça, quoi.
Francky, est-ce que parfois tu t'es fait peur au point de risquer ta vie ?
Ben oui, plusieurs fois, évidemment. Hein, j'ai eu des crashs, à très haute vitesse dans l'eau, j'ai eu des crashs sur le sol, à basse vitesse, je m'en suis sorti in extremis. Ma vie, elle est risquée, et elle est risquée depuis que je suis tout jeune, tu vois. Même quand je courais, j'ai eu des potes à moi qui sont morts. Hein, en fait, j'ai une espèce de philosophie de vie qui me dit... J'ai un niveau de risque que je suis capable d'accepter et j'ai pas envie de le passer, quoi. Je suis pas le genre de gars à jouer à la roulette russe et tenter ma chance. Je planifie tout, j'essaye de planifier le risque, de vraiment l'apprécier à sa juste valeur et de pas avoir une espèce de vision du risque et une peur, tu vois, épidermique. Comme tu aurais, par exemple, au milieu de la mer en pleine nuit à minuit. Il va rien t'arriver, il y a pas les dents de la mer qui vont venir te manger. Donc ça, c'est vraiment une peur épidermique qu'il faut mettre de côté. Mais par contre, tout le monde envoie un texto en roulant sur l'autoroute, alors que là, t'as plus de chances de mourir que dans la mer, tu vois, à minuit. Donc en fait, c'est ça que je dois, moi, manager en permanence, avoir une peur qui est rationnelle. Et après, quand elle devient rationnelle, mais acceptable, avec un niveau de risque, ben, je le prends. Et c'est vrai que des fois, ben, ça m'est arrivé que ça tourne mal, parce que ben, tu as beau tout prévoir, t'as beau répondre à toutes les questions que tu te poses et chaque fois que tu vois un risque, y passer au travers et l'annuler, ben, le vrai risque, c'est ce à quoi tu n'as pas pensé. Et ça, ben, tu sais, après, il faut être fataliste dans la vie. Je veux dire, c'est comme ça, quoi. Je veux dire, tu peux mourir demain. Regarde, l'année dernière, j'ai eu un accident extrêmement grave en ski. Et en plus, pour une fois, je ne faisais pas le fou. Alors que bon, des fois, avec des potes, on fait un peu les fous. Mais là, j'étais sur une piste bleue. Et en fait, je savais pas où vraiment, je me suis perdu dans la piste, j'ai suivi un ami à moi, j'ai pris un arbre à 80 km/h et j'étais côté gauche broyé, quoi. J'ai vraiment failli mourir. J'ai, à quelques minutes près, je mourais sur la piste, quoi. J'ai eu le poumon broyé, j'ai tout eu. Et là, tu te lèves et tu sors de ça. Là, tu sors de ça parce que déjà, tu as la chance d'être en bonne forme physique et tu as la volonté de sortir de là. Mais tu te dis, ça aurait pu être joli que je serais mort. Et qu'est-ce que j'ai fait de plus que quelqu'un de normal ? Rien. J'ai fait du ski, j'ai pris un arbre. Ouais. Donc, c'est la fatalité. Et il faut travailler pour que la vie dure le plus longtemps possible, faire du sport, être en bonne santé, réfléchir au risque. Mais après, il faut être fataliste, quoi. On est de passage et il faut vivre la vie à 100%. Donc, pour l'instant, c'est dans cette optique-là que je suis. Peut-être qu'en vieillissant, ça me passera et je redeviendrai un peu plus peureux. Mais pour l'instant... C'est comme ça que je conçois la vie, quoi.
Pourquoi doit-on te considérer comme un aventurier, un explorateur ?
Bah, écoute, moi, c'est ce qui m'anime, l'aventure. C'est, tu vois, j'aurais pas. Enfin, disons que je faisais du jet ski à l'époque et je fais des engins volants aujourd'hui, mais j'aurais très bien pu, tu vois, avoir une vie. De baroudeur d'explorateur ou même, tu vois, d'agent secret à la James Bond. J'avais juste envie d'avoir une vie complètement différente, à part vivre à 100%, mettre ma vie en danger et des fois au service d'un changement, tu vois. Et donc voilà, explorer. Et aujourd'hui, j'explore mes propres machines, j'explore mes, on va dire, mes propres peurs et ma propre vie, quoi. Jusqu'où je peux aller, quoi. Tous les jours, je me challenge de me dire, ben, est-ce que je suis pas allé trop loin et est-ce que ce défi-là, je vais arriver à passer outre et est-ce que je vais arriver à relever le défi et est-ce que finalement, je suis pas allé trop loin.
Francky Zapata, et ce sera ma dernière question, en quoi est-ce grisant d'être et de se sentir unique sur cette terre?
Moi, ce que je sens unique, c'est quand je vole, quoi. Tu vois, des fois, je me dis, justement, tu développes tout le temps, tu as toujours des problèmes. Quand on faisait la traversée de la Manche, on va pas assez loin, on va pas assez vite. Et chaque fois, j'ai toujours pris le temps, tu vois, de me mettre face au soleil, au coucher de soleil, regarder sous les pieds, voir qu'il y a rien, qu'il y a le vide, quoi, tu vois. Et là, tu vois la mer, tu vois, argentée, tu vois, par le coucher de soleil. Et là, tu te dis, mais merde, je vole, quoi. Je vole. Et j'ai toujours pris, tu vois, après chaque vol de flyboarder, au minimum, tu vois, 2 minutes pour arriver à réaliser ça, que t'es le seul, que t'es sur cette planche et que tu voles, quoi. Et que c'est déjà une grande partie de ton rêve qui est réalisé et qui est là. Et tout le reste, c'est des détails. Et ça, c'est plus que grisant, quoi. C'est ce moment, tu vois, où t'arrives à réaliser. Il n'y en a pas beaucoup, je t'avouerai que après la vie, elle t'emballe et elle t'emmène dans des défis, etc. Et tu ne vas pas assez vite, tu ne vas pas assez loin, c'est pas assez fiable, etc. Mais il y a des moments comme ça où c'est grisant, tu vois. Comme quand j'ai volé, tu vois, dans Monument Valley.
Monument Valley en Californie, un site absolument exceptionnel. Ah,
exceptionnel. Et je passais dans les canyons avec mon flyboarder, là, et je tournais dans tous les monuments, là. Et je me suis dit, c'est des moments de la vie où tu te dis, mais pff, qu'est-ce que je fais là, quoi, et qu'est-ce que c'est beau, quoi.
En tout cas, merci infiniment, Frankie Zapata, d'être venu nous parler de cette vie extraordinaire d'envie, d'aventure. Et j'ai envie, eh bien, un jour, après t'avoir entendu, peut-être, de poser mes fesses dans cette voiture volante, parce que ça fait terriblement envie.
Ah ben, le rendez-vous est pris, et écoute... Ça n'a pas duré bien longtemps pour que tu aies tes fesses dans la voiture. Donc, le rendez-vous est pris.
Merci beaucoup, Francky. Bon vent à toi et que ton imaginaire continue de t'emporter là où tu le souhaites.
Écoute, merci beaucoup. Merci. C'est tout ce qu'on peut me souhaiter de mieux.
Vous venez d'écouter un podcast du groupe TF1.